Chapitre 35. Pour une fois, Rohan rentre tôt du travail. Kate lève les yeux de son écran d'ordinateur quand il pénètre dans la cuisine. « Tu es déjà là ?» Il marche devant elle, ouvre le réfrigérateur et se verse un verre de vin avant même d'avoir enlevé son manteau. Il ne repose pas la bouteille. « Je t'en sers un. » Il est à peine 18h, mais elle hoche la tête. « Tu n'as pas passé une bonne journée ?»« Non, c'était un peu dur », répond-il en descendant la fermeture de son manteau. « Assez glauque même. » Elle sait qu'il n'en dira pas plus. Probablement une affaire de patients suicidaires ou violents, ou de choses répugnantes qui dégoulinent. À moins qu'il n'ait eu un différend avec un collègue ou un supérieur. Kate ne lui pose pas de questions. Elle se contente de faire teinter son verre contre le sien. « Au vendredi soir. » Rohan limite sans conviction et sort son téléphone, affichant une page sur l'écran qu'il retourne vers elle. « Tu as vu ça ?» Elle prend l'appareil, met ses lunettes et commence à lire. « Mon Dieu !» Il s'agit d'une photo du voisin d'en face, la bouche ouverte. On voit ses plombages et sa langue grise. Il a du sang sur le front. Ses cheveux sont gras, en bataille. C'est une image choquante. Un titre précède la photo. Le tueur de Saphir ? Un homme en garde à vue suite à la découverte de traces de sang et d'une coque de portable à son domicile. Tu as assisté à l'arrestation ?
Non, pas moi. Mais Georgia, oui.
Tu savais que les policiers avaient trouvé du sang ?
Oui, une journaliste nous l'a dit. Et toi, qui te l'a dit ?
Un collègue. Plusieurs collègues. On ne parle que de ça. C'est... Putain, c'est horrible. Elle tourne à nouveau le regard vers l'écran. Elle imagine les millions de téléphones dans les millions de mains et les millions d'yeux qui découvrent le visage de cet homme. Maintenant. Cet homme qui vit en face de chez elle. Elle lit l'article. Dans l'après-midi, Owen Peake, 33 ans, a été entendu par la police de Londres en lien avec la disparition de Saphir Maddox, 17 ans. Monsieur Peake, qui vit à Hampstead avec sa tante Tessa MacDonald, a récemment été suspendu de ses fonctions d'enseignant en informatique au lycée professionnel d'Ealing suite à des plaintes pour harcèlement sexuel déposées par plusieurs élèves. Maisie Driscoll, l'une d'elles, affirme que Monsieur Peake avait la réputation d'être un mec flippant. Elle dit également qu'il lui aurait caressé les cheveux lors d'une fête au lycée et qu'il l'aurait éclaboussé de sa sueur volontairement à plusieurs reprises. L'établissement n'a pas souhaité répondre à nos questions. Les voisins de la rue boisée de Hampstead où réside Monsieur Peake le décrivent comme quelqu'un d'étrange, de solitaire. Et l'une de ses voisines, Nancy Wade, 25 ans, raconte avoir été importunée par Monsieur Peake dans la rue quelques minutes avant la disparition de Saphir Maddox. Il m'a volontairement barré le passage. Quand je lui ai demandé de me laisser passer, il s'est énervé et m'a insulté. J'ai eu peur qu'il ne me fasse du mal. Ernesto Bianco, 73 ans, vit dans l'appartement situé au-dessus de celui de Monsieur Peake et de Madame MacDonald. Il nous a confié que ce n'est pas la première fois que Monsieur Peake est interrogé par les enquêteurs ces dernières semaines. Selon Monsieur Bianco, Monsieur Peake avait déjà reçu la visite de la police concernant une série d'agressions sexuelles dans le quartier, dont deux à proximité de son domicile. Pour l'instant, personne n'a été mis en examen dans le cadre de ces agressions. Monsieur Peake devra probablement s'expliquer aussi à ce sujet. Plusieurs sources indiquent que, lors de la fouille dans le jardin de Monsieur Peake, les policiers ont trouvé divers objets qui appartiendraient à l'adolescente, notamment une coque de téléphone portable. Il semblerait également que des traces de sang aient été relevées sur le mur extérieur de la chambre de Monsieur Peake et sur le sol. La police scientifique poursuit ses investigations. Aucun corps n'a été découvert. La police recherche toujours activement Saphir Maddox. Kate rend son portable à Rohan. Elle repense à la culpabilité qu'elle avait ressentie en renvoyant les policiers vers Owen Peake il y a quelques semaines. Mais elle avait eu raison, se rassure-t-elle. Elle s'était fiée à son instinct et ne s'était pas trompée.
Tu as lu l'article en entier ? Le harcèlement envers les lycéennes ? Ça commence à faire beaucoup, je trouve. Ce doit être lui.
Rohan reprend son portable. On dirait bien, oui. Renchérit-il. Kate boit une gorgée et regarde son mari d'un air songeur.
C'est quand même étrange qu'elle soit venue ici, dans notre rue. Pourquoi ? Pourquoi devant chez nous ? Pourquoi lui et pourquoi elle ? C'est tellement...
Elle frissonne.
C'est perturbant.
Rohan hausse les épaules. Tu sais, elle habitait plus ou moins le quartier. C'est l'une des rues qu'on emprunte pour aller au village. Ce n'est pas si bizarre que ça.
Où est-ce qu'elle allait? Personne n'avait rendez-vous avec elle.
Je n'en sais rien, dit-il en écartant les bras. Je ne connais pas sa vie privée. Kate soupire.
Quand je pense qu'il a suivi Georgia le mois dernier.
Mon Dieu, heureusement qu'elle a eu le réflexe de t'appeler.
Oui, je ne peux même pas.
Non, moi non plus. L'interrompt-il en secouant la tête doucement. Il fait nuit. Kate observe la rue depuis sa fenêtre. Elle veut voir si les policiers ramènent Owen Peake chez lui. À l'extérieur, rien ne bouge, à part une bruine légère qui se déverse des nuages noirs. Elle en discerne les filaments soyeux sous la lumière vive des lampadaires. Le cordon de police ne ferme plus la rue, mais le portail du terrain en construction est encore condamné. Demain, le week-end commence. Est-ce que les agents de la police scientifique travaillent sur les scènes de crime le week-end? Elle n'en sait rien. Elle perçoit un bruit derrière elle et se retourne. Elle pensait voir Rohan, mais non. C'est Josh.
Qu'est-ce que tu fais? Lui demande-t-il.
Je voulais voir s'il se passait quelque chose là-bas.
Il pose sur son épaule une main qu'elle recouvre aussitôt de la sienne.
Je me sens mal pour lui.
Elle regarde son fils.
Pour qui?
Lui, le voisin d'en face.
J'ai pitié. Tout le monde pense qu'il est coupable, alors qu'il est peut-être innocent.
C'est ce que tu penses?
C'est pas ce que je dis. Mais il y a la présomption d'innocence normalement. Les gens veulent trouver un coupable tout de suite. Ils veulent savoir qui est le monstre. Ils ont besoin de jeter des tomates pourries, des pierres. Ça me rend triste pour lui.
Kate se retourne face à Josh. Elle caresse son visage, sentant sous ses doigts le début d'un duvet d'adolescent, doux comme l'herbe d'été.
Tu es adorable, Josh. Tu es si gentil.
Il lui sourit et frotte sa joue contre sa main, puis la tire vers lui pour l'enlacer. Elle sent ses os, ses muscles, sa peau. Elle reconnaît l'odeur de l'adoucissant qu'elle utilise, et quelque chose d'autre, un vague relent de tabac froid. Elle se demande s'il fume. Et, le cas échéant, si cela la dérangerait. Elle aussi fumait à 14 ans, dans les champs, à côté du chemin de fer, derrière les murs et les haies. Des Dunhill. Elle les piquait à sa mère, jusqu'à ce que cette dernière s'en rende compte et se mette à cacher ses cigarettes. Ensuite, elle était passée au roulé. Est-ce qu'elle peut lui en vouloir d'en faire autant? Dans le climat actuel, alors qu'un meurtre a peut-être été commis, elle se fiche de savoir si Josh fume. Elle s'en inquiétera plus tard. Elle desserre son étreinte et lui sourit.
La justice fera son travail, reprend-elle d'un ton assuré. Le coupable sera condamné.